Bienvenue dans le Movers and Checkers Show de Entreprendre dans la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Dans ce talk show, je partage ma conversation avec une personnalité engagée pour une mode plus durable, éthique et responsable. L'objectif ? Comprendre les enjeux et partager des solutions concrètes pour améliorer les pratiques au sein de notre industrie, souvent montrée du doigt. J'espère que ces conversations vont vous inspirer et vous donner envie, à votre tour, d'être acteur du changement. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Bon Marché, bienvenue au sein de cette bulle de végétation. Je voulais juste dire quelques mots en introduction au nom du Bon Marché et accueillir Tata Harper et Christian David, qui est le cofondateur de Cure Bazar et la créatrice et fondatrice de cette ligne de soins Tata Harper. Cet espace est un espace éphémère que l'on a imaginé, que l'on a installé mi-septembre et qui sera présent au Bon Marché ici jusqu'à la fin du mois d'octobre. On a souhaité vous présenter une féminité et une beauté vue un petit peu différemment. Alors, une féminité qui s'affranchit, je dirais, de dictates de perfection. Donc, vous verrez qu'on a mis à l'honneur aussi la campagne de pub de Renaud Campusa, le directeur artistique de Chantel, qui a du coup shooté des mannequins aux morphologies différentes. Et puis, nous avons aussi en périphérie mis à l'honneur un certain nombre de créatrices de lingerie et de slow fashion qui ont un engagement, je dirais, éco-responsable qui fait écho à celui de Cure Bazar ou Tata Harper. Et puis, en invité majeur, nous avons Tata Harper au sein de cette greenhouse. Donc, Adrien Garcia, qui nous fait l'honneur d'être le modérateur de cette conversation, va vous dire un petit mot sur cet espace qui est un espace de vie, d'expérience autour du soin. Voilà, au Bon Marché. Je vous souhaite une belle conversation et je passe la parole à Adrien.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais remercier d'abord le Bon Marché de m'avoir confié cette tâche assez cool, finalement, d'interviewer Tata Harper et Christian. Pour commencer, moi, je vais vous faire une petite introduction des deux personnages, des deux invités qu'on a ici. Aujourd'hui, ça va être un peu du franglais. Hein. J'espère que vous comprenez tous le français. Ou l'anglais, en tout cas s'il faut traduire, on traduira au fur et à mesure. Mais en tout cas, on est avec vous pendant trois quarts d'heure, une heure, et je vais commencer par introduire Tata Harper. Donc Tata est businesswoman, maman de trois jeunes enfants. Elle est née et elle a grandi en Colombie. Elle a suivi une formation d'ingénieur industriel en Colombie puis au Mexique. Elle est ensuite partie s'installer aux États-Unis à Miami, où elle fait carrière dans l'immobilier. Elle crée sa marque de cosmétiques de luxe en 2010. L'idée, à l'époque, c'était de faire du bio avec des produits 100% naturels haut de gamme. Les produits sont des crèmes et des sérums. La marque est vendue depuis 2012 en France. Elle est aujourd'hui disponible donc au Bon Marché, ici même, à l'hôtel Bristol et dans plusieurs autres grandes enseignes. Sa marque est désormais utilisée par des stars et des influenceurs de tout âge. Et aujourd'hui, ça fait un chiffre d'affaires quand même de 65 millions de dollars. Et elle a plus de 500 points de vente et plus de 200 salariés. Donc, on parle quand même d'un business qui est assez impressionnant. Pour parler un petit peu plus spécifiquement de Tata, elle a développé le goût de l'entrepreneuriat grâce à sa maman qui a une entreprise de liqueurs. Son beau-père a eu un cancer de la peau qui l'a fortement sensibilisé à prendre soin de la peau en général. Alors, elle a voulu répondre au problème des multinationales, des cosmétiques qui utilisent beaucoup de conservateurs et de substances synthétiques dans leurs crèmes. Elle a eu le constat qu'il n'existait aucune marque 100% naturelle, alors elle l'a créée. Elle a commencé à travailler dans sa ferme de 500 hectares du Vermont il y a 9 ans, au nord de l'état de New York City, où elle vit maintenant. Donc cette ferme est sa maison et son lieu de travail. Elle y cultive ses propres ingrédients en agriculture biologique. Elle s'est fait aider d'experts en chimie et des herboristes pour faire des formules les plus performantes pour chaque produit, sans une seule goutte de produit chimique. Il y a parfois plus de 800 tests à chaque fois pour trouver la bonne formule. Tous les process de produits sont réalisés en interne et l'ensemble est fait pour réduire l'empreinte écologique de la marque Tata Harper. Des flacons en verre recyclé, de l'électricité renouvelable, des fournisseurs locaux. Elle s'efforce de garder un rythme de vie sain. Elle arrête de travailler à 18 heures, c'est assez extraordinaire quand même. fait du sport, mange bio, de la méditation, des randonnées, et elle passe beaucoup de temps avec sa famille. Donc en ce moment, elle sort elle va sortir une crème solaire, un parfum en 2020. Elle essaye de s'adresser à une clientèle de plus en plus jeune. Et donc du 14 septembre au 27 octobre, elle est ici même, elle lance sa Green House, donc le pop-up store du Bon Marché Rive Gauche, au premier étage du magasin, ici même, avec une serre végétalisée, inspirée de sa ferme à l'occasion du lancement de sa nouvelle gamme Supernaturel 2.0. On a ensuite Christian David qui est là. Bonjour Christian. Christian a 48 ans. Je m'étais trompé dans la préparation, je lui avais rajouté une année complémentaire. Il est de Franche-Comté. Il a lancé Cure Bazar, fort d'une expérience chez Dior et Sisley auparavant. Il a ensuite inventé le vernis à ongles bio avec le mannequin Kartika Kiet, une de ses meilleures amies d'enfance, qui lors de sa grossesse a pris conscience de la toxicité des vernis. Il a lancé en 2011 Cure Bazar, le vernis 85% naturel. Cure, c'est un mix de care et de manucure. Bazar, c'est pour l'explosion de couleurs et un clin d'œil au Maroc, où Kartika a vécu pendant 10 ans. Aujourd'hui, Cure Bazar, c'est 22 employés, présents dans 10 pays, dont le Japon. Juste pour vous donner un petit peu de contexte sur la création de la marque, il a emprunté 150 000 euros à la banque pour lancer son projet Cure Bazar, car il fallait totalement inventer le produit. Il y a eu une grosse phase de recherche et développement à partir de 2010. Ils ont mis des mois à trouver la bonne formulation en travaillant avec des laboratoires. La formule continue d'être améliorée chaque année pour être de plus en plus saine. En 2011, il y a la rencontre avec un industriel, ce qui permet d'aboutir en novembre 2011 à un vernis 85% végétal, le premier au monde finalement. Les vernis sont fabriqués à partir de pulpe de bois, de coton et pommes de terre et maïs. Il lance le produit officiellement pendant la Fashion Week de 2012 devant 200 invités et sélectionnés sur le volet, et sa première collection de 30 couleurs au prix de 16 euros. C'est bien ça ? J'ai pas dit de bêtises ? Très bien. Eh ben, on commence l'interview et nos échanges. Donc là, c'est maintenant que je switch en anglais. Ça va être assez bizarre, mais tout va bien se passer. Donc, je vous pose la question à tous les deux. You will start first, yeah. In 2010, people didn't really know about biocosmetics. How did you feel that the market was ready to welcome your product?
So, hi everyone. Nice to meet you guys. Honestly, I had no idea. It was kind of like something that I decided to develop because I'm from Latin. I am a Latin woman, and our approach to beauty is never about simple beauty or being a minimalist. It's always about being a maximalist. And when I wanted to change to natural beauty, everything was super simple. You know, it's like a lot of the formulas were just about like one ingredient. A lot of them didn't have a lot of technology in them. It was just like a product that was natural and that was probably like really good for someone that likes it simple and not complicated. But what about the rest of the clients? What about the clients like me, that they want real technology, real results, because that is the point of buying skincare, and that it's not about just one ingredient, but the compilation of many, many ingredients together, but that also don't want to put synthetic chemicals on their skin. And honestly, when I decided to launch this, I had no idea how big, how small. I just wanted to provide an alternative, you know, for people that this resonated with. And that was basically my main motivation. It's like, there's nothing worse than not having alternatives. And I'm going to help create this alternative for people that have this sort of beauty philosophies. Yeah. So that's how it began. And at the same time, the wellness movement, which is really not a trend, but it's a movement that it's happening worldwide, was beginning. So we were kind of like a bit of a byproduct of that wellness movement of people like me that were looking for, hey, I don't feel comfortable with putting ingredients in my skin that I find in my car, you know, all this petroleum, all of this like battery acid, propylene glycol, that it's antifreeze, all this like PEG-30, you know, like industrial ingredients. It's like, why are they in my eye cream? Why are they in products that are supposed to make me more beautiful. Like, this is like a huge contradiction. And that was like really what motivated me. It's like, okay, I know that a lot of consumers, they don't read the fine print. They don't read labels. They don't understand what a lot of these unpronounceables are. And rarely do they Google. But I have Googled and I know, and I want to bring a new proposition so that people, you know, that really want no compromises and that want not just clean, because clean is about avoiding controversial chemicals and clean is what everyone will be, but really about trying to do the most, you know, and that's really what the challenge was.
It's what, Christian, and you?
Thank you. Bonsoir, bonjour, pardon. Je vais peut-être répondre en français.
Oui, en français, sans problème. Ouais.
Thanks, so. I think it's good. Notre histoire est bah, comme Tata, c'était presque dans les mêmes années et on s'est d'ailleurs croisés à New York en 2010. Moi, d'accord, j'achetais déjà les produits de Tata Harper sur la 14e, je me souviens très très bien. Et notre histoire est une vraie histoire d'entrepreneuriat, peut-être un peu à la française, c'est un petit peu différent. On n'avait absolument aucune notion de ce qu'allait devenir le marché. C'était quelque chose d'assez non réfléchi et... C'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'était absolument pas lié à une étude de marché il y a 10 ans. Je pense qu'on se rend pas compte, 10 ans en arrière, les choses vont tellement vite aujourd'hui. Je dirais même que d'une année sur l'autre, dans les 3 dernières années, le feeling de la clean beauty ou de la naturalité change année après année. Ouais. Mais il y a 10 ans, c'était une toute autre histoire. C'est-à-dire que c'était encore, je dirais, dans un positionnement extrêmement prospectif. On imaginait ce que ça pourrait être demain, mais on en avait très peu d'idées et surtout pas vraiment de place. Il n'y avait pas de place vraiment préécrite pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très, très différent. Et pour répondre à ta question, en 2010, c'était, je dirais, une très forte conviction. C'était vraiment... En fait, quand on a fait ce défilé avec Kartika, c'est assez drôle, parce qu'elle défilait depuis 10 ans, elle arrêtait sa carrière, elle avait 30 ans, donc ça se terminait. Et on avait, tout, grâce à elle, tout ce réseau pour pouvoir inviter et organiser un backstage, comme on dit aujourd'hui, d'une façon un peu irréfléchie. Et on n'avait pas de clients, en fait. C'était fait, on ne savait pas du tout où on allait vendre nos produits. On les présentait. Et voilà. Et après, je crois que c'est vraiment la rencontre avec les clientes.
Qui a fait ce que c'est devenu.
Qui, exactement. Je crois que c'est pas du tout une... Et je retiendrai une chose dans l'entrepreneuriat, c'est que lorsque vous mettez toute votre énergie dans votre produit et que vous le travaillez d'une manière où vous êtes tellement sûr de ce que vous y mettez, que ce soit l'énergie, les ingrédients, je pense que le produit trouve toujours sa place.
Ouais. Mais d'ailleurs, à l'époque, comme il y avait tout à écrire, vous commencez par quoi finalement? Parce qu'il n'y a pas forcément d'exemple sur lequel à suivre.
Alors ça, c'est une pure... Vous savez, après, c'est une... Moi, j'essaye, quand je croise de jeunes entrepreneurs, je dis toujours, la première des choses, c'est quelle est ton idée? J'ai envie de dire, c'est... Lorsque l'on est vraiment dans des choses nouvelles, c'est aussi une idée, c'est 5 mots. Et moi, j'allais beaucoup à New York, je me souviens, c'était assez drôle. Et à New York, c'était la mecque des nail bars. Vous alliez, dès que vous étiez fatigué, vous arriviez avec le jet lag. Première chose que tout le monde faisait, femme ou homme, vous alliez faire une manipédie pour les femmes. Et moi, je me vois encore me dire, waouh, c'est a little bit old fashioned. Everything is, you know, dirty. This many, many bottles of we don't know what, a mix of brand, you know, like a so curious bottle with we don't know what it's, but it smells so hard. So I say, okay, you know, this is the beginning of the idea, just to see that in New York, I remember, and après, voilà.
But let's do something clean. But enfin, sur des formules clean, and I can ask you the question as well to Tata. When there is nothing on the market that is clean, where do you start? What do you look at to get inspired and to start the formula finally?
I really got inspired by the idea, you know, like the possibility. I remember that the fact that it was so hard was kind of like drove me to create the product. Because I remember, you know, when I started, and you know, for a lot of consumers, they don't realize like what goes behind making products. You know, like when you make a product, let's say that you want to start a skincare line, everything is subcontracted. You know, like you go to a lab and you start from a base, and then the conversations would be like, oh, you're Colombian, Tata. Let's add this ingredient from the Amazons that it's going to represent who you are. And I'm like, no. I am not here to start from a base, to add one ingredient that represents who I am. This is not about who I am. I want to like be able to show or my clients like global technology and, you know, how to do it from the ground up. Or, for example, like even when it came to making the products, like a lot of beauty is super subcontracted as well in the production side of things. Like you typically rely on a contractor that makes 50 other brands to make your brand. And I, because of the type of products that I was developing, I felt really uncomfortable about making products dictated by the minimums of a subcontractor. And it's like, okay, wait, so I'm going to have to make thousands of this serum and then store it and inventory it for months and months. And then by the time that it gets to my clients, it's like, you know, it's months and months. Like, I like this idea of like making it, putting it out there super fresh, super active, so that you really get all the results. Because it doesn't matter if it's natural or synthetic, a lot of the vitamins, the antioxidants, the actives, like, they do degrade with time. So it's better if you're getting it super, super active. So I don't know. I think that the whole challenge and really challenging every aspect of the business, it's what drove me to create like a new vision. And I think that the fact that I did not come from the industry and I had no preconceived notions of how to do it actually allowed me to do it the way that I thought that made sense for us. And that's, for example, why we ended up with our own Tata Harper factories that we have in my farm in Vermont. It's not that we make all the ingredients in the farm. It's that there we make the products and we fill them and we package them, and all of our bottles come from our farm. So I think that when you're trying to find something clean, you know, clean is a term that it's a little bit confusing, because clients think that clean is about being natural, and clean is not about being natural. Clean is about avoiding controversial chemicals, right? Things that are controversial out there, that there are studies that they see that in laboratory animals they grow tumors, or that they do this or that, and they have not been tested on humans, but this is what they see in laboratory studies, right? So a lot of brands have been like, okay, I'm going to remove those ingredients. I'm going to take out parabens. I'm going to take out SLS. I'm going to take out all these things that are shown to be controversial. And in my opinion, that is what everything will be. You know, in 2 years, clean beauty will be the way, and not beauty, just like in general, customer products are going to be clean, because that's just the way that what we need to do. What we bring to the table is completely natural beauty, which is totally different. Like, yes, it is clean in a way, but it's so much more than just clean, because we don't use anything that it's industrial. We don't use anything that it's synthetic. Everything is derived from nature. So the proposition is quite different. And again, I had no idea how big, how small this was going to be and how much people would actually love the concept. And I just wanted to create it. I just wanted to be able to do it. And number one, prove that it is possible. You know, because what I realized through my journey is that a lot of the constrictions were mainly psychological and cultural than technological. Like, you can actually do it, and you can have a business where you don't need to subcontract, and you can have products that don't have any of the synthetic chemicals, which why I was challenged so much. It's like, no, you do need the parabens, you do need the PEGs, you do need all of these ingredients. Like, and what I realized is that a lot of formulators, they're used to do things easy. You know, dealing with synthetics are easy. They're cheap. They're easy. You formulate in 4 months. You're out in the market really quickly. You're able to move really fast. While what we do is brain damage. It's like, we have to formulate every product from scratch. We have to research, validate everything. Also, we are a brand that we decided to go with EcoCert as a seal. Because it's something that we are not required to do anything, actually, as a beauty manufacturer. You don't have to get a number. You don't have to get a certificate. You don't have to do anything, right?
But this is for the U.S. market, but in Europe, it's not the case. No, you cannot do what you want.
No, it's not that you can do what you want. My point is, like, just like in the U.S., they're here too. The thing is that the list is smaller. In order to sell in a country, you always need to comply with certain ingredient restrictions. In the U.S., there's 10 or 12. Here, there's 1,000. And that happens in every country. But what I mean is, like, as a manufacturer of cosmetics, in order to launch in your country, you don't need to get anything. Anything. You don't need to register with the FDA. You don't need to register anything. They get involved as soon as you start making claims about the products, and they make sure that you're not sounding like a drug. That's when they get involved. Other than that, you don't need anything. But we have a product that is certified by EcoCert, which is an optional seal that it's a pain in the butt. It's expensive. They're a French agency that come to my farm every 3 months to audit everything that we do. Like, they sometimes go to our financial files and they pick up an invoice of a raw material and they're like, okay, let's talk about this raw material. Show me how you trace this raw material. Like, they get involved in my packaging. They get involved in everything. And we do it so that my clients know that what we do is not only 100% natural, and they also know the percentage of organic, but also so that they also verify that our packaging is also sustainable.
Yeah.
And that's the way we do it, because of you guys, so that you guys know that we have that commitment and that it's true. It's not greenwashing. It's not clean washing. It's real.
Great. Christian, toi, quand en 2010, tu as été voir les labos et que tu leur as dit, je veux faire un truc complètement clean, ils ont dû te prendre pour un fou, non?
Oui, notre métier est un peu différent parce que il est complètement impossible de fabriquer un vernis dans notre ferme.
Ouais.
On en a en Franche-Comté beaucoup, mais à la frontière suisse. Mais c'est très différent. C'est-à-dire que l'on était, nous, obligés de rentrer dans le cœur de l'industrie cosmétique, qui est une très grosse industrie aujourd'hui, et de pouvoir convaincre aussi. Revenons il y a 10 ans, hein, aujourd'hui c'est plus facile, les formules sont déjà là et on parle plutôt de les upgrader, mais la base est là, si ouais. Je peux me permettre.
Mais
il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout.
Ouais.
Et il y avait une énorme... Le premier point de départ compliqué était de convaincre, c'est-à-dire que, parce qu'on représentait des quantités qui n'étaient absolument pas intéressantes, et il fallait sourcer de nouveaux solvants, des nouvelles distillations qui n'intéressaient absolument personne comparativement à des tonnes et des tonnes de façons de produire.
Ouais.
Donc, nous, notre parcours était vraiment, on va dire, je crois qu'il fallait aussi beaucoup de chance de trouver quelqu'un qui finalement disait oui, on va le ouais. faire, parce que sans ça, de toute façon, nous n'aurions pas pu le faire.
Mmh.
Soyons clairs, premièrement.
Ouais.
Et deuxièmement, après, je pense que déjà, l'industrie était quand même en prête. Enfin, sinon, nous n'aurions pas pu le faire. Donc,
bien
voilà,
sûr, ouais. Mais il y avait un marché, les gens réclamaient, demandaient ça ou pas?
Alors, c'est une chance, je crois. Ça, c'est aussi la façon d'avoir travaillé avec mon amie Kartika, qui avait une toute autre vision. Elle n'était pas du tout dans ce milieu. Elle sortait de se faire maquiller 30 fois par semaine, fatiguée de tout ça. Et elle me disait toujours, je pense que ça a tout changé pour Cure. Je sais pas, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on est au bon marché aujourd'hui. Vous allez voir, pour un point qui est très différent, c'est qu'elle me disait toujours, tu sais, ok, ça c'est en gros ton problème. Elle n'en mettait plus, elle attendait un bébé, donc c'était aussi un point de départ important. Mais elle préférait dire, j'en mets plus. C'était, voilà, et donc c'était assez violent. Et elle me disait toujours, tu sais, by the way, si on n'a pas de très belles couleurs, we don't care. Pourquoi mettre un vernis naturel s'il ressemble à rien?
Ouais, parce que
autant ne pas en mettre.
Parce que ça existait. Il y avait des choses, mais c'était pas terrible.
Oui, mais au final, c'est pourquoi en mettre si c'est pas des très beaux rouges, si c'est pas des textures qui tiennent, si c'est pas joli, si c'est pas... Et en fait, c'est cette combinaison, je crois aussi, qui nous a permis d'avancer vite.
De faire des beaux produits, des belles couleurs.
Ce qu'on appelle sans compromis chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent chez nous qui ne connaissent pas notre travail de naturalité, qui viennent juste pour notre couleur.
Ouais.
Nous, on explique après qu'ils sont plus naturels.
Mais ça, c'est la clé, comme dans la mode. Les Véjas, souvent, c'est Sébastien
ouais,
Coppe,
ouais,
il dit...
C'est un style, bien sûr, si on les aime pas, moi, je vais pas les
ouais.
mettre. C'est exactement la même chose. Mais d'ailleurs, on est très, très souvent associé à une marque de mode. C'est un petit peu particulier. Nous, on est très, très souvent lié à la mode, peut-être plus qu'à la cosmétique aujourd'hui. C'est un mix. Je crois que c'est intéressant. En tout cas, dans l'écologie aujourd'hui, je crois que le next step de l'écologie, dans ce milieu plus mode, qui est un peu moins cosmétique, mais peut-être plus mode. Je crois que le style est fondamental. C'est-à-dire que, surtout à Paris, nos clientes parisiennes sont, quand je dis exigeantes, c'est absolument pas négatif. C'est un regard, c'est un style, c'est une attitude. Si vos couleurs ne conviennent pas, elles ont beau être très naturelles, elles n'intéresseront personne.
If the products don't give results, like, people don't buy them again.
Yeah, what's the point?
Yeah, what's the point? And it's also like the perfect combination of like form meets function, because it's also like it needs to come in a packaging that it represents the quality of what it's inside, and also that it's sustainable, and then also to challenge, like, yes, you can make packaging that looks luxurious, that looks high quality, but that it's also sustainable, and that, you know, and that I believe that my clients are not, like, they're not expecting that we create so much trash, you know, like, it's something that I think about, and we really try to put sustainability, like, in every aspect of the business, just because, not because of marketing, but because that's how we need to do business in the future, period. Like, I don't think that it's fair to expect the clients to put all the pressure on the customers and be like, you need to be sustainable, but then we as you know, companies that produce consumer products, we're not giving them the option to be sustainable, and it's rare in luxury to find that opportunity. You know, to be able to be sustainable and give the clients that option. And it's like, yes, I have where to shop that I don't only meet all of my, you know, standards for health and for results, but that also I feel that I am not just creating trash that it's going to end up in the landfill. You know, like, that's why our packaging, it's made all in glass. Like, in beauty, glass is mainly for fragrance. Like, you don't find a lot of glass options. So we have to make our own bottles, our own molds. Everything is custom. You know, it's like you have to go through another layer of complications to be able to supply a product that it's natural,
yeah,
and that it's sustainable.
How did you remain very faithful into your ID when it looks so difficult to make a sustainable, natural cosmetic?
I mean, that's why I did it, you know? It's like, that is the reason why. I was really not interested in participating in doing the same that it's been done, because I honestly believe that we don't need another serum. We don't need more cleansers. We don't need more moisturizers. There's so much out there. Like, why? Like, what I wanted is to make a product that makes people's lives better, and that also, with that, your product, you're also supporting a more sustainable future. And that is the only reason why I'm doing this, and the only reason why I'm driven to do this. Like, if not, I would be doing other things, you know? And I feel very passionate about that. And all, my team has they're all here. They know how strongly we feel about our values and what we bring to the table. And it's just like something that it's just never questioned, period, you know? And it's harder, but we're set up that way. Like, that's the way that we started. And we have also created a know-how of how to know how to do these things. Like, they take longer, they take more time, they're more expensive. But that's how we do it, and that's how we're able to do it.
A question I love to ask is, how can we accelerate this sustainable revolution at the end of the day? How can we how can we accelerate this?
Yeah, I think that that's a great question, because sometimes, like, I get filled with so much, like, eco-anxiety, like, on a weekly basis when you see all the news and you're like, oh, God, like, what are we gonna do? And sometimes it just feels, like, so out of our hands, right? Like, there's no regulation. The corporate policies are all over the place. Like, you know, like, this is all about lobbying and, you know, and so many things, and not the right decisions that are, like, right in front of our eyes are not met. And what I always say to myself is, like, let's start with the things that are actually under my control. Like, I can control not to buy another plastic bottle of water. I can control not to grab 10 napkins from the, you know, when I'm, like, out in a restaurant. There are many things that are under my control, and they seem small, but if we all think that way, they will make an impact, you know? And that's all that you can really do right now, aside from going and striking and protesting so that bigger things happen, is, like, at least control the things that are under your control. Because sometimes it's like, oh, what's the point if, like, we, you know, it's like we're waiting for the politicians to make all the decisions. No, but make those decisions yourself.
Ouais. Toi, Christian, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Comment on peut accélérer le mouvement dans l'industrie de la cosmétique, finalement?
Moi, je vais être peut-être un peu plus French sur ça. Moi, je pense que il y a une vraie notion de philosophie, de politique, de social derrière. C'est-à-dire que pour nous, le next step, et on le met en place très différemment, c'est d'avoir aussi un modèle d'entreprise très différent. Mmh. Et c'est comme ça que l'on peut changer les choses et d'avoir... Alors, attention, je dis pas faire de la politique parce que je pense que c'est un autre métier. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. C'est aujourd'hui, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de parler aujourd'hui à un autre niveau avec justement les personnes assez suffisamment puissantes qui peuvent vraiment s'inspirer de nouveaux modèles d'entrepreneuriat. Et une fois qu'on a passé ce step d'entreprise, soyons clairs, de nouveaux systèmes d'entreprise, et je vais peut-être développer très rapidement deux éléments. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un rôle social, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle est vue, est vécue différemment, on emmène, si vous voulez, un système très différemment, et ça fait partie pour nous de nos engagements qui dépassent justement la formule. On l'a, j'ai envie de dire, il y a un moment, vous savez, je vais être un petit peu direct, ça va pas changer grand-chose que l'on ait 1% de plus. C'est pas notre façon de communiquer. Maintenant, si on a un nouveau modèle qui change les choses, c'est pour nous très très important. Ça, c'est le premier élément. Et puis aussi, d'ailleurs, c'est des grandes discussions aux États-Unis. On lit aussi beaucoup de choses sur une nouvelle façon de gérer les profits dans les entreprises. Je crois que c'est fondamental. Mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que les formules sont pas très bonnes. Il y a un moment, il faut aussi réinventer une façon de... Moi, je pense, hein, mais c'est très, très personnel. Et là, c'est que je dis que c'est très French, c'est très engagé, mais...
Mais ça veut dire ça quoi peut ça veut être, dire
le profit n'est plus ouais. au cœur. Exactement. Le profit n'est plus au cœur. Ouais. On ne peut pas dire faire moins de marge parce qu'il faut faire très très attention. Vous devez vivre, vous devez faire vivre votre entreprise et vous êtes un chef d'entreprise. Nous, on a bientôt 40 personnes avec nous. C'est une grosse responsabilité, donc il ne faut pas non plus rêver. Mais vous voyez, de le travailler différemment, ça change tout. Et moi, je suis convaincu que les engagements aujourd'hui, le next step du green pour moi en France, c'est d'emmener un nouveau modèle. Et
pour toi, les grandes lignes d'un nouveau modèle, c'est quoi ?
C'est travailler différemment les profits, c'est-à-dire que le profit ne doit pas être au centre de l'entreprise. Je suis certain que le profit est aujourd'hui sert, bien évidemment, à ce qu'on puisse tous vivre correctement, parce qu'on travaille beaucoup. Mais au-delà de ça, on doit véritablement faire vivre différemment tout le monde autour de nous. Ça, pour moi, c'est une très, 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 très important. Et ça coûte beaucoup d'argent. On paye beaucoup de charges, on prend beaucoup de... Nous, on a vécu quelque chose qui n'était pas du tout attendu. On fabrique un produit et aujourd'hui, on vend du service. Je suis sûr que tout le monde le comprendra. Quand vous vendez du service, il nous faut beaucoup, beaucoup d'employés. Mmh. On s'est retrouvé dans un modèle qui n'était pas du tout écrit dans notre... Et ça, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire aussi, vous écrivez quelque chose, ça se passe autrement. Et ça, en tout cas, c'est le cœur de notre vie. Et deuxièmement, moi, je reste convaincu qu'il faut aujourd'hui ne pas avoir peur de prendre la parole dans certains moments clés. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut oser dire les choses et il faut ne pas toujours se cacher derrière quelque chose de seulement marketing ou d'image. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, c'est un engagement plus interne à l'entreprise.
Très bien.
Je ne reviens pas sur les formules. Alors, je suis complètement d'accord avec Tata. Nous, on pense vraiment que la clean beauty, dans quelques années, c'est le minimum pour tout le monde.
Ce sera mainstream pour tout le monde, ce sera la norme.
Ça me paraît obligatoire. Ou alors, ceux qui oseront encore le faire, ça me paraît juste fou.
Ouais.
Ou alors, si on arrive à un problème de prix, ce serait dramatique. Vous voyez, je ne veux pas faire de parallèle à la nourriture, mais je pense qu'on ne doit pas arriver ça en cosmétique.
Bien sûr.
On n'est quand même pas dans le même... On ne doit pas faire cette concession-là.
On a une question du public, je crois. Hein.
Bonjour. Ça va ? Ça marche ? Voilà. Donc, j'en profite pour rebondir suite à la perche tendue d'oser. Donc, j'ose prendre la parole. I wanted to thank you because what you say is very powerful and we need an example like you. You are very ambassadors to people. And I finish in French, sorry. OK. Donc, je voulais vous remercier parce que vous êtes tous les deux des personnes très inspirantes et on parlait de faire accélérer les choses, de changer. Donc, je pense que c'est vous qui êtes en train petit à petit de prendre le pouvoir grâce à deux choses, grâce à vos engagements à l'un à l'autre. Et c'est vraiment le principe de l'entrepreneuriat. Et je vous rejoins parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Et quand on parle avec ses tripes, quand on parle vrai, quand on a un discours convaincant et qu'on est aligné, on donne envie, on est inspirant. Après, il y a quand même peut-être de la chance, du talent aussi, faut pas le nier. Donc je salue votre talent d'entrepreneur, parce qu'il suffit pas d'avoir une bonne idée et de l'avoir dans les tripes. Faut savoir la communiquer, faut savoir la transformer. Et ça, c'est un talent qui est pas donné à tout le monde. Donc bravo, vous êtes de véritables ambassadeurs, et c'est vous qui allez faire changer les choses petit à petit et qui sensibilisez. En tout cas, moi, vous m'avez amené, alors notamment par l'expérience avec Cure aussi, des vernis, à me sensibiliser au naturel, à ce que je mettais sur moi, à faire attention et à me donner une conscience plus éveillée, plus large. Donc en fait, chaque porte d'entrée est bonne à prendre et très inspirante. Et la deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu disais, Christian, sur peut-être le rôle social dans l'entreprise et une autre façon de concevoir l'entrepreneuriat, je te rejoins complètement sur cette dimension sociale. Voilà, et je voulais juste partager. Je travaille, j'ai un lieu de, un centre de mieux-être dans lequel, voilà, avec lequel je travaille avec 25 partenaires. Et pourquoi est-ce que l'esprit est si fort et que les valeurs sont très bien transmises? C'est parce qu'il y a une vraie adhésion, une véritable adhésion entre tous les partenaires et une envie commune d'aller vers la même direction. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et de remettre les valeurs au cœur de l'entreprise. Et merci de m'avoir laissé la parole.
Je vous en prie. Moi, j'avais une autre question. En ce moment, on parle beaucoup de women's movement, empowerment, de body positive, etc. What's your position on these topics?
let's see. I think that, you know, I feel that the conversation around beauty has always been centered around this idea of perfectionism, which doesn't exist. Like, no one is perfect. And sometimes it leads ourselves to be like so hard on ourselves. And I love it now that there's this new awakening that it's like, no, we are all beautiful in our own way. And the only way to really be the most attractive that you can be is by actually embracing all the good and all the bad, you know? And I sometimes think about, like, a lot of the friends that I find to be my most attractive friends, and they're far from being like this image of perfection. They're actually, you know, like, they're people that are happy. There's something like in their spirit, in the way, in their attitude, in the way that they speak, about their charisma, that beauty goes so much beyond just like the physical aspects. Like, yeah, there it is, one aspect, but no one has really acknowledged everything else that comes from being considered an attractive person or a beautiful person. And I think that it's really embracing and being like, taking all of that, like the good and the bad, and just being really positive. I mean, like, yeah, that's what makes me who I am. And I think that that is really important, you know, because it's like, if not, it's like no one will ever be happy because no one is perfect, you know. And I think that it's such a good message today, you know, that we embrace beauty and we see beauty from all of the different aspects that beauty really come from, and not just from the physical, the hair, the this, the that. It's just, it's like a thing, you know, it's like a thing, that it's a package.
Ouais. Christian, toi qui es un homme à la tête d'un business à destination des femmes, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton point de vue? Comment tu parles de ces sujets-là? Je trouve que c'est toujours difficile quand t'es un homme de parler de tout ça. Hein.
Ouais, je sais pas si on en parle, mais on le vit, parce que effectivement, 98% de nos clients sont des clientes. Donc, on le vit au quotidien. Moi, j'ai une vision un peu comme Tata. Je pense que c'est intéressant pour ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose qui dépasse beaucoup d'aspects qui ne sont pas juste physiques. Juste, c'est tout un ensemble. Et nous, des fois, on rajoute une touche finale, j'ai envie de dire. Donc, je vois bien qu'on n'est des fois pas grand-chose. Mm. Et des fois, on a cette chance de croiser des clientes, parce qu'on parle de ça, qui sont juste tellement inspirantes, qui ont tellement... j'ai envie de dire gagner, réunir en tout cas, ouais, des éléments qui les rendent magnifiques. Et elles nous quittent et on se dit waouh. Et on voit les autres qui se disent waouh, ça c'est quoi? Ben, c'est, ouais, tout un ensemble. Je trouve que c'est ça aujourd'hui l'avenir, c'est cette globalité. On voit, et peu importe le physique, parce que je crois qu'après on se dit mais sublime cette.
Mais vous l'avez intégré dans la communication, dans le marketing? C'est un truc que vous vous êtes posé la question à un moment donné?
Oui, très, très. Nous on parle d'une façon assez curieuse. On est. D'ailleurs, on n'est pas dans cet esprit de renvoyer en beauté des images de mode, ouais. Alors qu'on travaille beaucoup dans la mode.
Bien
c'est
sûr.
Ça qui est très particulier chez nous. On shoot pas de cette manière, alors qu'on vit tous les jours dans cet esprit. Mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, le débat est complètement global et je crois que les femmes, et comme les hommes, l'ont compris.
C'est, ouais.
La beauté, c'est juste un élément et ça vient signer la fin de tout un... Alors, long pour certains ou certaines et plus court pour d'autres,
ouais.
D'avancer dans la vie. Quoi. Voilà, c'est...
Ouais, mais ce que je veux dire au travers de ma question, c'est que les marques ont une responsabilité folle sur ces sujets de société qui sont hyper importants. Donc, comment une marque de fringues ou de cosmétiques prend la parole sur ces sujets-là, quoi.
Moi, j'ai bien connu parce que dans mon passé, j'ai construit des amincissants. Donc, je peux vous dire que c'est... plus de 10 ans chez Dior, et c'était à l'époque des grands moments de minceur chez Dior. Tout le monde doit s'en souvenir. Et j'ai bien connu ces... Mais je crois que c'est une époque.
Ouais.
Enfin, mon avis, c'est une époque. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, les choses sont très différentes. Ce qu'on pouvait faire avant dans les années 2000, et ce qui se faisait dans les années 80, ce qui se fait aujourd'hui, à mon avis, n'a plus rien à voir. Et je pense que les choses changent beaucoup. Regardez, les entreprises, enfin, dans les grandes maisons de mode se mettent d'accord sur des normes, de respecter énormément.
Yes.
Et nous, à l'époque, on se permettait des choses dingues.
Ouais.
Et les choses ont changé, tant mieux.
Déplacé, ouais.
Je crois que c'est une époque. Mais même comme dans l'entrepreneuriat, hein, le temps, on n'en a pas parlé.
Ouais.
Oh, c'est, des fois, c'est un grain de sable. Hein. Le temps est essentiel. Et c'est pareil aujourd'hui dans notre époque. Je crois que c'est un moment qu'on vit et qui ne ressemble pas à ce qu'on faisait avant.
And you, Tata, I can ask you a question in English. What do you do in terms of communication, marketing? What question do you ask yourself when it comes to women empowerment and body positivism, etc., etc.? How do you address this issue? What I was talking in what I was telling in French is I think companies have got a big responsibility when it comes to this subject.
Yeah, I think that for us, you know, like as a brand, we are not like a brand that has like a model that it's the face of the company, that it's this embodiment of perfection.
Yes.
Like we have never really embraced that at all. Like actually from our communication standpoint, we focus on like the real girl always from a content perspective, from even like all of the campaigns that we do. It's never about being perfect and being a model, but like real scenarios and being very educational. That has always been our perspective and just really showcasing the real girl, you know, the real girl, not the model to sell skincare cream, but like the mom, the teenager, the professional woman in all of the different sizes and colors that we all come from. You know, that we all come, and it's just like it's really real authenticity, really. There's reality, authenticity, even from a influencer perspective. Like we've always struggled a lot with like this idea of like paying people to like endorse our products. It's something that has come, like we really struggle with it.
Yeah.
You know, it's like, oh, that's so awkward, you know. Like, yeah, of course we send our products to many different women around, and if they love it and they organically support what we do, love what we stand for, love the product, see results, and they want to mention it, that's the way that we've typically approached it.
Yeah. And you, Christian, how do you approach this influencer policy?
C'est notre époque. Mais moi, j'aime bien parce que pour moi, il y a deux aspects. Bien sûr, il y a le côté hyper powerful que je trouve très, très intéressant. Ça change beaucoup de règles.
Ouais.
Et en tant que je sais pas, enfin, d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, on se doit de réfléchir sur cette nouvelle façon de communiquer que moi je trouve aussi très excitante parce que c'est la vie. On peut pas, ça sert à rien de revenir. Et je trouve que c'est. Et vous savez, je vais vous dire autre chose. Et en parallèle, ça peut des fois être tellement injuste parce que ça va tellement vite. On peut dire des choses qu'on maîtrise pas. Et moi, je reste convaincu que c'est des éléments aujourd'hui de la vie de tous les jours, mais qui sont aussi des fois hyper violentes, en fait. Faut pas avoir peur de le dire. Des fois, ça va tellement vite et on n'a même pas le temps de... Faut pas avoir peur de le dire. C'est tout un ensemble. Et vous voulez que je vous dise, by the way, le lendemain, on passera déjà à autre chose. et quelqu'un d'autre prendra la parole. Et quand vous mettez tout ça dans votre tête, bon, moi j'aime. J'avoue que je suis très sensibilisé. Je suis très et on a plein de clientes qui sont des clientes amies aujourd'hui, des influenceurs et qui ont. Je sais pas si on dirait qu'on travaille. C'est plutôt comme une famille. On n'est pas dans un style de travail. On est plutôt dans une ambiance. Un peu communautaire. D'accord. On n'a pas passé peut-être cette étape.
Okay. The main obstacle for customers to buy natural product is often referred to the price. It costs a bit more money to buy natural cosmetics, isn't it? And my question is how do you respond to this kind of interrogation question?
I think that is a generalization. I mean, you can really find natural beauty at different price points.
Yeah.
You know, like it really depends on how active do you want it to be? Mm. You know, it's like, of course, if you can find a natural product in a supermarket, in the natural food store, and it will have like ingredients that are, you know, basic and that they are more affordable because there are a lot of the oils, you know, extracts, all of that they can use. But if you're not looking for just a natural product, but you want like the best natural moisturizer, like, you know, like that comes with another price tag. Because now, for example, for us, we're never been about just like one ingredient. Like all of our products have dozens of ingredients. So it's like we always formulate with that in mind about like, how do we, with this one product, we are giving you the same active ingredients. Like you would have to buy 10 products to get what is inside of this bottle. So when you formulate with that in mind, it's just at another price point because it's like you're adding equivalent to 10 products, sometimes even like more than that. Like, you know, our Elixir Vitae serum has 71 active ingredients. Like, where do you find that? You know, it's like, and then not only that, but it's 100% synthetic free. So we don't use any cheap industrial chemicals at all in anything. Not just like that the actives are natural. It's just like, the preservatives are natural. The emulsifiers are natural. The gums are natural. The stabilizing agents are natural. Like everything in it is natural. So it's like you're replacing like, you know, petroleum with like bamboo fibers from, you know, you know, like you're using very sophisticated raw materials along with like unaltered naturals like oils and essential oils. You're also using all the green chemistry that is coming from Israel, from Madagascar, from Germany, from Austria, the natural, you know, hyaluronic acid that it's made out of biotech with, you know, from the Czech Republic. Like that stuff is expensive.
Yeah.
And then on top of that, we make it in my farm. It's not subcontracted. You know, it's made pretty much by hand.
People understand then.
Yeah, and not only that, but then we don't default to a plastic container to save money there. No, we invest in our packaging. We invest in our boxes. So it's so that they can be sustainable and they don't end up creating more trash in the world. Because even plastic, you can recycle plastic, but you can only recycle plastic one or two times.
Yeah.
You know, glass is infinitely recyclable and glass costs more. So it's just a series of decisions that you have to make that are really hard, but that you thinking about all of these things that you're bringing to the table. So yes, that costs more and it's unfortunate and we're always trying to make it as affordable as we can. But these things are expensive.
Yeah. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que c'est les cosmétiques organiques et naturels, c'est réservé aux privilégiés finalement?
Après, je dirais pas ça. Moi, je voulais faire une remarque sur nous. Déjà, notre façon de travailler est un peu différente parce qu'en soin, on comprend la complexité des formules qui n'est pas véritablement notre point de vue à nous en termes de fabricants. Nous, c'est une innovation. On n'a pas cette complexité de formule qui peut être complètement upgradée et qui peut faire varier les prix. Nous, c'est assez différent. Dans notre domaine, une fois que vous avez positionné le côté de la formule, moi, je dis quelque chose que je défends. Je pense qu'il faut être au juste prix. Et je crois que ça, c'est très, très, très important pour l'entreprise et puis pour nos clientes.
Bien sûr.
Le juste prix, ça veut dire... les clientes le comprendront très bien.
Et vous êtes transparent, voilà, vous êtes transparent, vous expliquez les choses comme elle expliquait Tata ?
Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup les expliquer. Vous savez, c'est le juste prix se ressent, vous le comprenez, parce que les clientes comparent. Aujourd'hui, vous savez, en un clic sur Internet, vous comprenez beaucoup de choses. On est tous très proches. Regardez, dans cette belle maison du bon marché, on peut essayer plein de produits. Non, mais c'est vrai, c'est important, c'est libre choix. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis sûr que le juste prix du produit, ça fait partie de l'éthique d'une entreprise aussi. Un peu curieux, peut-être, mais je crois que ça fait partie de l'essence de...
There are more and more brands of cosmetics that make greenwashing in their products. What are your ethical... is there a solution for you to make it clear that natural is not fashion, but a real DNA brand?
Yeah, I don't think that natural is about being fashionable at all. I mean, it's like, you know, before I started my company, I thought that the whole natural thing was more about being ecological. You know, it's like, oh, you want to do the natural and organic thing because you want to be super eco, right? You do it for the environment, which I am. But then I never thought that I had to change my moisturizer to be ecological, you know, like I had my non-for-profit. But then you realize like, oh, no, this is really a health conversation. And then you realize that it has nothing to do with being fashionable or not. It just depends on how you like to live your life, especially because... You know, cosmetics are things that happen in your life every day, right? Like it's every morning and it's every night. It's not like once in a while or every 3 months. It's like daily interactions with these chemicals. So that's why it's so important. It's like if you're interested in your health, you're interested in all these things. This has nothing to do with fashion. And by the way, this is really not a trend. This is a movement that is happening around the world and not only in beauty. It's happening across all consumer products, fashion included, food, cleaning products. It's like customers demanding better, safer things because they want products that makes their lives better. You know, it's like, don't sell me this idea that it's like semi-cooked, but then when you look deeper, you're like super disappointed. It's like, please give me the real deal, you know, like the full fantasy. Like, I want everything in one product. And I feel that that's what the consumers are really wanting, you know? That has nothing to do with being fashionable. It has to do with a way of living.
Complètement d'accord, ça c'est it's in evidence, mais je pense qu'on peut aussi parler de résultats. C'est important, en tout cas dans notre domaine, la façon de changer des habitudes ou du vernis, soyons clairs, parce que c'était un peu le dernier produit dont on ne s'occupait pas du tout il y a 10 ans, et c'était un peu on se demandait même pourquoi on allait parler de cette façon de voir. Et je peux vous promettre que beaucoup de nos clientes ont pu remettre du vernis qu'ils n'en mettaient plus pour les problèmes d'allergie. On a permis aussi à des clientes de remettre du vernis, clairement, parce que en les utilisant, les choses étaient différentes sur les ongles. Donc, c'est aussi une histoire de résultats. Et moi, je suis sûr que chez Tata, c'est pareil. Moi, j'étais un de ses premiers clients. Et je trouve que la notion de résultat par rapport aux ingrédients est fondamentale. Et nous, c'est très, très visible. C'est des choses... quand vous n'abîmez pas les mains, les ongles, quand vous pouvez permettre de réparer lorsque vous accompagnez dans certains cas. Enfin bon, voilà, tout le monde se comprend. Ça dépasse largement je dirais, le listing. C'est aussi c'est des preuves du quotidien.
Très bien. Ça fait déjà bientôt 50 minutes qu'on est ensemble. Hein. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public à poser à Christian et Tata ?
Okay. Hi, my question is for Tata, and it's that when you started off with this business and it wasn't really common skincare that is natural, what were the fears that you had as an entrepreneur and how did you overcome them?
You know, okay.
Lorsque vous vous êtes lancé dans cette grande aventure d'imaginer votre marque de soins organiques, quelles ont été vos peurs et comment est-ce que vous les avez dépassées?
Yeah. So, you know, I look back to the time when I was starting the business, and I was also, by the way, having babies at the same time. So it was a crazy time in my life. It was super intense, and I honestly don't remember ever having fear, ever, ever. Like, I was like, I'm going to find a way to make this happen. I don't know how long it will take, but I am going to do everything in my power to try to make it happen. And I never really allowed fear to be part of my decisions at all. Like, I was like in a trance. Like, I had no idea what I was on. I had no idea what really was dry. I was like really driven to make this happen. And I was honestly like with no fear. I was just like, I'm going to have my babies. I have no chance. I had invested my savings into my company. And I am like, I am going to figure this out no matter what. And that was really my attitude. And that's the attitude that I bring every time that we encounter problems today. Because even if you launch a brand, doesn't mean that you stop learning. Like, I'm learning every day from challenges, from problems that we have, from challenges that we need to constantly be overcoming. And it's like this flexibility of mine and this positivity that really keeps you going. Because being an entrepreneur is not easy. It's really not easy. It's very risky. It's a lot of decisions. Also, like, the life of many of your employees are in your hand. Like, you need to be successful because you're employing hundreds of people in your company and you're responsible to pay their paychecks. And there is no other option than to make it work somehow and be creative and try to find solutions, you know?
Alors, comme quoi, les expériences sont pas les mêmes. Moi, j'ai eu très, très peur. Mais vraiment, très, très peur. Et ça a été un souvenir assez intéressant parce que je crois que le premier combat était de vaincre la peur. Ça a été assez bloquant au début. Et je me souviens de ces moments, de journées où j'étais incapable de même faire un email complètement bloqué. On me disait encore, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Et j'avais peur, je dois avouer. Donc ça a été mais je crois que les histoires ne se ressemblent pas, ça qui est intéressant. C'était un facteur compliqué à vaincre cette peur du début. Parce que peut-être les cultures sont pas les mêmes aux États-Unis qu'en France. Tout de suite, on a cette vision peut-être de qu'est-ce qui va se passer si rien ne fonctionne. Donc c'est une autre façon de peut-être d'embarquer, on va dire, toute l'histoire. Voilà.
Comment t'as réussi à dépasser ça finalement?
Non, mais après c'est exactement ce que dit Tata. Après, c'est là peut-être où les histoires peuvent bifurquer. Hein. C'est très important. Il faut trouver des solutions et une fois que c'est fait, il faut avancer. Mais c'est beaucoup souvent on quitte un boulot, on change de vie. Ça change votre vie. Soyons clairs. Votre vie d'entrepreneur avant et après n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose, c'est évident. Et puis, j'aime beaucoup ce que dit Tata. Bien sûr qu'il faut trouver, we need to find solution. There's no option. There's no plan B. Alors, mais moi, j'ai vécu avec la peur au début. Ça a été une année vraiment de pas de doute, mais de peur.
C'est bien,
après, il faut trouver des solutions.
Mais, c'est bien de l'avouer, c'est chouette.
Non, mais c'est un souvenir que j'arrive à résoudre.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Is there any other question in the public?
Je veux juste rebondir pour remercier de ce témoignage parce que ce serait nous mentir que de nous montrer que l'entrepreneuriat est facile et c'est important de nous dire que c'est semé d'embûches aussi, qu'il y a des peurs à dépasser et que vous êtes comme tout le monde très humain. Donc c'est aussi important pour nous parce que de nous montrer quels sont les risques et les obstacles, de partager des expériences parce que si c'était aussi facile et que positif et que dans la joie et le bonheur, on serait tous entrepreneurs ici. Donc c'est bien aussi d'être conscient et d'avoir en main tous les arguments et toutes les expériences, le plus d'expériences possible. Merci.
Parce que je voulais rebondir sur ce que disait Tata, sur ce mouvement. Je n'aurais pas pu m'exprimer sur ce point. Moi, je suis fondamentalement d'accord avec Tata. Si on n'est pas vraiment aujourd'hui, je pense que cette façon de vivre globale sur, en tout cas, peu importe les noms, clean, green, tout ce que l'on veut, en tout cas, je pense que c'est un vrai mouvement et non plus du tout une tendance. Et je crois qu'aujourd'hui, se crée une famille. J'aime beaucoup, moi, cet esprit de mouvement. Un mouvement, ça se fait pas seul. Ça se fait parce qu'il y a une réunion d'entrepreneurs et d'entreprises engagées. Et aujourd'hui, c'est extrêmement excitant, je trouve, en très peu de temps. Hein, là, de nouveau, vraiment.
En quelques mois. Hein.
Et il se passe énormément de choses. On connaît très bien tous les deux Stella McCartney, par exemple, chez Always Said, we are on the same pool. Et ça veut vraiment tout dire. C'est-à-dire que on était tous il y a 10 ans dans ce mouvement au démarrage et c'est une piscine qui grandit. C'est comme un océan aujourd'hui. C'est un peu notre discussion. On passe d'une piscine à l'océan et c'est un vrai mouvement. Et je crois que ça, c'est... Après, on est libre, mais c'est chouette. Ouais, c'est très, très chouette.
Mais ça,
c'est vraiment chouette.
Un changement d'état d'esprit. On n'est plus.
On n'est plus seul. Nous, en tant qu'entrepreneurs ou en tout cas de chef d'entreprise, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est de ne plus avoir ce combat seul. C'est vraiment un ensemble et ça nous ouvre énormément de possibilités pour l'avenir.
Très bien.
And also, like one more thing on your question about like how do you cope, right? Being an entrepreneur is so stressful. It's like I think that it's super important, especially when you're super passionate about your business, that you're almost like it's master, but also it's slave, and you're in it all the time. Like when you're really passionate, is to find avenues to deal with that. Like for me, it's exercise. Like I have non-negotiable routines of things that I do because I feel better when I do them and they help me clear my mind, like exercise, I meditate, you know, so it's really important to find those little things that bring you joy and that really like disconnect you from the everyday life, because not only to start the business, once the business is running, you're always in it, right? Like it's so important to find whatever that is, a massage, a facial, walking in nature, I mean, whatever it is, but it's key to have that built into your schedule. Built into your routine. It's like, I do not end or start my day without this happening for me. And it's like, you almost need to treat it like you treat a meeting. It's like, I am meditating no matter what, and it's in my schedule. yeah, true. But it's like that. Because if not, like, you could be working 24/7, you know?
Et toi, Christian, comment t'arrives à avoir cet équilibre de vie, justement?
Moi, je suis un cran moins organisé, je veux pas mentir. Oui, it's a big discussion yesterday with Tata. Voilà, bon, c'est un tempérament peut-être un peu plus volcanique, je sais pas. Non, c'est quelque chose sur lequel... Mais c'est important aussi en termes de step aussi, c'est de prendre conscience de la responsabilité que l'on a quand les choses avancent. De faire attention à soi aussi parce que vous êtes aussi le maître à bord, donc il faut pas avoir peur de se dire qu'on a besoin de nous pour le fonctionnement. C'est un peu bizarre, hein, mais c'est la vérité. C'est très sensible. Enfin, nos entreprises sont quand même très fragiles. Voilà, c'est vrai. Et voilà, après, quand vous êtes passionné, avec les iPhones, c'est compliqué. Moi, je rentrais de voyage là, je me disais, oh là là, ça y est, tout est connecté dans les avions, vous avez vos mails, je n'arrête pas. I know.
I have a policy, like, after 9:30, I am not checking more email, period. You know, like, I have rules like that all the time to, like, create boundaries so that you're like, you know, it's like, after 9 p.m., that's it. Like, I turn off the phone, like, I'm not in it anymore, and I will check again at 6 when I wake up the next morning. It's like,
no, it's good. It's good. I'm sure you.
This digital distractedness and connectedness, that it's super unhealthy too. And you need to spend time with your family. You need to spend time with your friends. You need to spend time for yourself. Like, you know, it's like you need to create balance in your life, especially once you have kids, that it's, you know, that now you're like, oh my God, I'm giving myself to my business. I'm giving, like, all my free time goes to my kids. Like, what happened with the stuff that I love to do for me, like, for my selfishness, you know, for, you know, without thinking about anybody else. And it's so important to keep those things. Like, I became such a better mother as soon as I started, like, exercising again, doing all these little things. Like, I wasn't irritated all the time, felt frustrated all the time, felt that, you know, it's like, ah, when is it that I'm going to be able to enjoy the things that I used to enjoy? And they won't be never to the extent that you used to, but at least they're there and they're habitual and they happen, you know?
You have to invite me in Vermont. I won't.
Would you do something different in your whole career path, in your whole entrepreneur life? No.
All the mistakes and all the the things that we've done has led me to where we are now, honestly. Like, I never see mistakes or even like mistakes that are made by my team as things that are incorrect. They're always learning experiences of like what not to do anymore. And, you know, I really wouldn't change anything because I think that all of the good and bad steps that we've taken along the way have taken us to where we are now.
Great. And you, Christian, pareil.
Of course, ça, on fait le même. Bon, c'est stressant quand même. Ouais. J'ai moins de recul sur. J'avoue, c'est tout un encore quelque chose à travailler. Ça, c'est un tempérament, bien sûr. Après, moi, par contre, j'ai une philosophie où je suis vraiment dans. On parlait tout à l'heure de positivisme. Tout ça, pour moi, n'est pas très grave. Donc, en fait, globalement, si je devais remettre tout ça dans une énorme cloche. Je pense fondamentalement que tout ça n'est pas très grave. Donc au final, c'est une liberté aussi, parce que je crois qu'il faut avoir ce recul. Après, à l'intérieur de la cloche, les choses sont différentes. Mais au global, j'ai cette chance d'avoir cette vision positive et libre de me dire que voilà, c'est un recul. Mais j'avoue qu'au quotidien, c'est plus compliqué. Mais globalement, je crois que c'est important, cette vision globale de nos situations.
Très bien. Pouvoir... On a une question de Claire, je crois.
First of all, thank you, Christian and Tata. You're both very inspiring, and thank you for sharing all these, you know, tips and all. My clients often come to me with, you know, issues for nutrition or how they can take better care of themselves every day. And obviously, you've shared a little bit, but I figure that it comes down to self-love a lot, confidence and everything. So, in your life as an entrepreneur, and you know, in general, do you have any tips for that also? Because Tata, you were talking about meditation and everything, which is amazing. It's also something that I use. And for self-love and confidence, what would be like the thing that you can practice every day to feel better, to be better in your work, and just in general?
Do you want to start?
No, I'll
tell you. I try to do a few things. I mean, again, I am a mother of three and I'm working all the time. So it's not like I can do a lot of things, but I try to exercise every day. I wake up and it's like the first thing that I do is I exercise. And, it sounds silly, but it's like I almost have no time to see facialists and do any of that stuff. But I've learned to, with my family, create like a little ritual at night where we take baths. And, you know, like when we are there at that moment, like we're together and we do a lot of like grooming together, like it feels good. And it's like the beginning of like the most relaxing part of my day. Like we take baths actually together in the same water because I don't like the idea of like everybody having a different bath, you know, and doing like all that water that gets lost, like everybody bathing separately. But then we also like put creams on, we cut our hair, you know, like we cut our fingernails, like we brush our hair. And also I feel that another thing that makes me feel good is that I am also taking care of myself by eating well, by sleeping. I try to sleep, you know, at least 7 to 8 hours every day. Like feeling that I'm taking care of myself, and it's a kind of like a form of self-respect, gives me a lot of happiness, you know. So feeling that I'm also taking care of myself with little things, you know, little things that just happen every single day, and that they become routine, and I can also share them with my kids and be part of that. Like also like watch a movie, like also spend some time and having tea with your girlfriend that you don't get to see that often. It's like, those are the luxuries right now in my life.
Moi, après, je pense que c'est une période d'époque aussi. Pour parler de la nutrition, de l'alimentation, je pense qu'on vit un moment aujourd'hui qui est quand même assez compliqué. C'est pas facile de respecter peut-être ses propres engagements sur la qualité. Sur moi, je viens d'une famille d'hôteliers. Moi, gamin, je passais dans les cuisines et je me posais pas de questions. À 11h30, je goûtais tout ce qu'il y avait et il y avait même pas. Il y a 30 ans de cette époque, on se posait même pas de questions sur les provenance, la qualité, tout était très bon et on mangeait autant de pain que de crème et de beurre et tout allait très bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, surtout quand on n'est pas à la campagne où on peut vivre différemment quand on est en ville. Moi, je suis clairement devenu citadin alors que je suis originaire de Franche-Comté, donc comme vous le savez, dans les forêts. Et c'est dur d'avoir cet engagement. Et moi, personnellement, je suis assez strict, en fait. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est aussi comme un sportif sur... Moi, je fumais il y a 20 ans, j'ai arrêté de fumer. Je me suis dit simplement, je vais être plus fort que la cigarette. J'ai jeté la cigarette. Il y a encore 10 ans, je mangeais un peu n'importe comment. Aujourd'hui, je peux aussi faire un excès un soir, mais je fais hyper attention sur, en tout cas, les minimums. Et je crois que c'est une histoire d'époque. On est un petit peu obligé. En tout cas, moi, je pense que pour... Et on en a parlé juste avant. Je pense que pour sa propre santé, on est obligé de faire... le minimum, c'est-à-dire que ça, l'époque a changé, il faut faire attention et voilà. Et c'est une discipline, mais je pense qu'elle est importante. Moi, alors pour le coup, sans faire peur, je pense qu'elle est très importante. Et j'imagine avec des enfants, je pense que c'est très très important. Moi, c'est un engagement important. Mm. Après, on peut aussi faire quelques excès, c'est normal.
Ok, I think that's the end of the talk. Thank you so much to both of you.
Thank you so much. Take care. For being here.
Bye bye. Of course, thank you to the Bon Marché for the invitation. Take care, bye bye.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.